Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
On appelle cela des camps quelques jours, la plupart du temps en pleine nature, à faire des sports parfois extrêmes, à suivre des conférences, à entendre des témoignages et à prier pour ceux qui le souhaitent. Des camps pour hommes uniquement qui connaissent un succès grandissant. Devant ce succès, France 2, dans un reportage, a raillé l'année passée ces camps pour reviriliser les hommes. Les organisateurs, eux, préfèrent parler de réveiller l'âme des hommes. Une âme indomptable, faite pour l'aventure, le combat, pour la beauté, jusqu'à donner sa vie s'il le faut. Zoom sur les sessions au cœur des hommes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler du monde autour du plateau, Étienne Delagarde, vous êtes ferronnier d'art, père de 5 enfants et cofondateur des camps au cœur des hommes, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Nous rejoindra un petit peu plus tard Bertrand Chevalier-Champy, qui est membre de l'équipe d'organisation de ces camps au cœur des hommes, est sur le plateau, dans les studios. Vincent Chef-Debien, vous êtes ingénieur informaticien, père de 4 enfants et membre d'une fraternité au cœur des hommes. Bonjour.
Bonjour.
Et puis nous rejoindra un petit peu plus tard Benoît Marc, qui est lui-même membre d'une fraternité au cœur des hommes. On fait aussi en fonction des agendas des uns et des autres. C'est déjà sympathique que vous arriviez à vous libérer au milieu de vos vies professionnelles bien prises. On va commencer avec vous, Étienne Delagarde. Je le disais en introduction, il y a de plus en plus de camps qui s'organisent aux quatre coins de la France pour les hommes. Alors pardon, je ne vais pas vous faire de la publicité que pour vous. On va quand même citer les autres. Il y a les fameux camps Optimum organisés par la communauté de l'Emmanuel. Il y a les Kingsman qui sont organisés par la communauté du Chemin Neuf ou les Béatitudes. Et donc il y a Au cœur des hommes. Avant qu'on aille dans le détail de cette aventure, à votre avis, pourquoi un tel succès? Que disent les hommes qui viennent dans ces camps? Pourquoi est-ce qu'ils s'y précipitent toujours plus nombreux?
Oui. Alors, c'est vrai que là, je faisais le compte à la fin du dernier camp et on voyait qu'il y avait plus de 500 participants qui étaient passés dans nos camps, et tout ça en 5 ans. Donc, c'est vrai qu'il y a un véritable engouement. Et je pense que le moteur, ce qui fait que les hommes viennent, et viennent nombreux, c'est que dans une société qui est vraiment très pauvre en repères, et précisément en repères pour les hommes, je crois que le besoin se fait sentir de pouvoir venir expérimenter, de pouvoir venir réfléchir aussi, et de pouvoir venir prier sur cette identité d'homme qu'on sent bien qu'on a reçue, mais qui est aussi quelque chose qui est en devenir. C'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on doit faire progresser.
Voilà, comme s'il fallait...
Et donc, il y a...
Oui. Allez-y, pardon, continuez.
Oui, on sent que on est donc dans ce passage et les hommes ont cette angoisse, ce doute dont John Eldredge a très très bien parlé dans son livre Indomptable. Et ce doute, en fait, il est moteur aussi, hein, parce que c'est ça, c'est la grande aventure de l'homme d'aller à la rencontre de son identité.
Alors, on y reviendra sur ce best-seller de John Eldredge. Si on va sur votre site internet, on trouve ni brute ni lâche. L'homme véritable veut mettre sa force au service de l'amour. Son cœur aspire à l'aventure, à démontrer sa valeur à travers la conquête d'une belle ou la défense d'une cause. On reviendra sur ce triptyque aussi de John Eldredge. En tout cas, vous avez une expression. Fuel for man, je ne sais pas comment vous le traduisez. Est-ce que vous pouvez expliquer cette expression qui a l'air d'être un peu une manière de résumer ce qu'on vit dans ces camps? Fuel for man, ça veut dire quoi?
Oui, c'est du carburant pour les hommes. Le but, c'est que les hommes qui viennent au camp sortent renforcés donc dans leur identité d'homme, sortent équipés. Et sortent accompagnés d'une fraternité d'hommes. Là, vous avez parlé de deux personnes qui donc pourront parler tout à l'heure des gens qui sont dans des fraternités eux-mêmes et donc qui vivent cette fraternité, cet accompagnement. Donc, Fuel for Men, c'est un anglicisme qui est de bon aloi pour expliquer ce carburant, ces munitions, on pourrait dire aussi, pour le combat.
Alors, vous avez donc cofondé ces camps au cœur des hommes avec Clément Lesca. Clément Lesca a, dans une interview parue il y a quelques années de cela, donc sur le site Aletheia, dit un certain nombre de choses. J'aimerais qu'on revienne sur deux points. Il dit dans cette interview que souvent les hommes aujourd'hui, les hommes chrétiens, on va parler d'eux particulièrement, ont l'impression en fait d'être réduits on va au moins garder deux injonctions, à être des gentils garçons ou être des bons petits soldats du capitalisme. Est-ce que vous pouvez expliquer cette expression ?
Oui, très bien. On dit aussi le lion de Juda, on lui a rogné sacrément les griffes. Et effectivement, il y a un lion dans le cœur de chaque homme, et peu importe le physique, hein, il ne faut pas forcément mesurer 2 mètres de haut et avoir des biscottos énormes pour être ce lion. Et l'homme chrétien aujourd'hui, on pèse sur lui énormément d'injonctions, de modération, de pondération, de sagesse, mais dans le mauvais sens du terme. Et quand l'homme ne se réveille pas, eh bien, il se trouve effectivement rangé à son rôle de petit garçon à qui on confie gentiment un jouet qui peut aussi se transformer finalement en auxiliaire de choses qui sont très mauvaises dans notre société, hein. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour voir toutes ces mauvaises choses qu'on voit, enfin dont on parle, et alors que justement l'homme est le gardien de la création. Donc si l'homme ne se reconnecte pas à vraiment ce cœur fort, ce cœur indomptable, ce cœur qui est prêt à se battre pour une cause qui le dépasse, il assiste passif sur le bord à tout un tas en fait de choses qui sont pour lesquelles il a été fait, il a été créé comme une vigie. Voilà, je ne sais pas si je m'exprime, si c'est clair. Il a été créé pour être un défenseur en fait de la veuve, de l'orphelin, du faible, et trop souvent il est spectateur passif.
On trouve aussi cette expression: beaucoup d'hommes s'ennuient dans l'église ou dans leur couple. C'est un extrait d'un résumé du livre de John Eldredge, donc dont ces sessions sont inspirées, la vôtre comme d'autres, donc qui est un évangélique américain qui a écrit ce livre et qui est devenu un best-seller. Beaucoup d'hommes s'ennuient dans l'église et dans leur couple. Pour réussir sa vie spirituelle et relationnelle, l'homme doit renouer avec l'image d'un Dieu passionné. La combativité et la prise de risque ne sont pas mauvais en soi, bien au contraire. On y reviendra un peu plus longuement peut-être avec Bertrand Chevalier-Champy, avec qui on fera un résumé du parcours qui est proposé dans ces camps. Comment est-ce que cette aventure est née, Étienne Delagarde, puisque vous êtes un des cofondateurs? Vous êtes retrouvé avec quelques amis et puis vous étiez les bras ballants, à ne pas savoir quel homme devenir. Comment tout ça a commencé?
Pour la petite histoire, j'étais parti, j'avais 3 jours... entre deux boulots à consacrer un peu à... Enfin, je voulais me plonger dans la nature et je me suis retrouvé donc dans la Venise verte, vous savez, le marais Poitevin, avec mon canoë. Et pendant 3 jours, comme ça, je pagayais au milieu des canaux. Et tout d'un coup, j'ai eu cette phrase vraiment très forte qui m'est venue à l'esprit et qui me disait: c'est étonnant comme c'est difficile d'être un garçon aujourd'hui. Et en fait, je ne me suis même pas rendu compte sur le moment qu'en disant difficile d'être un garçon, alors que j'avais 25 ans, je posais le problème. Normalement, j'aurais dû être un homme, en fait. C'est difficile, j'aurais dû dire, c'est difficile d'être un homme aujourd'hui. Et quelques jours après, on se retrouve, d'ailleurs c'est étonnant, à l'enterrement de vie de garçon. Donc, d'un autre cofondateur du mouvement Au Cœur des Hommes, Clément, et je parle de cette petite phrase qui m'était venue pendant cette période de canoë. Et on était 4 ou 5. Benoît, enchaîne très vite avec beaucoup d'éléments de doctrine, de philosophie autour du sujet. Clément embraye en disant qu'il rêve de créer un club de réflexion sur l'identité masculine. Et Thibault, avec tout son charisme d'organisation, prend les manettes de ça. Et un certain nombre, les autres présents, en fait, ont chacun apporté leur pierre à l'édifice. Et on s'est retrouvés finalement à 6, à créer, donc il y a 10 ans de ça, hein, un peu plus de 10 ans maintenant, un cercle de réflexion sur l'identité masculine. On était alors tous célibataires en région parisienne. Et on s'est retrouvés pendant 2 ans pour réfléchir sur ce thème. Chacun, à tour de rôle, tous les mois, planchait sur un sujet. Et puis au bout de 2 ans, ce cercle est mort de sa belle mort parce qu'on avait épuisé, on va dire, les sujets. Mais il avait quand même porté des fruits puisqu'on était tous mariés, tous engagés. Et on avait tous mûri, en fait, dans notre parcours d'homme.
Alors depuis, donc, se sont créés donc les camps au cœur des hommes. Il faut dire que Monseigneur évêque du diocèse de Fréjus-Toulon donc tient une place importante dans ces camps, puisque je crois qu'ils vous ont, il vous a aidé à vous lancer et puis à persévérer, à vous déployer. Aujourd'hui, en 2019, il y a 6 dates de camps. Je crois même que vous visez à peu près 10 dates par an. Qu'est-ce qu'on y vit exactement dans ces camps? Je disais, c'est un cocktail en fait subtil entre vivre une expérience physique, une expérience intellectuelle, une expérience aussi qui part du cœur. Bref, on essaye un peu de dégoupiller toutes les dimensions des hommes. Racontez-nous à gros traits ce qu'on vit lors de ces camps.
Oui, bah, déjà, vous le dites bien. Hein. C'est vrai qu'un camp, c'est un moment où l'on expérimente le temps d'une session, ce qu'est un homme. Alors, bon, le but, c'est d'ailleurs justement de ne pas trop dévoiler le programme. Dans les camps, il n'y a pas de programme. On n'a pas une petite feuille A4 avec lever, je sais pas, 7h15, 8h15, petit déjeuner, un bol de ricoré, enfin, voilà. C'est aussi un temps d'aventure, ce camp. Donc, le camp, c'est un moment où l'on parle, on prie et on vit la masculinité. J'aime bien dire que les camps, on appelle ça des camps, c'est aussi des sessions, parce que c'est un moment de réflexion aussi, c'est un moment de partage, il y a des temps de partage qui sont des moments très forts dans le camp, et c'est aussi une retraite, parce que on se connecte à Dieu le Père, qui est celui qui en fait a la réponse à cette question, vous savez, qui hante tout homme, ce doute, qui est « suis-je un homme ?». Et donc, si on ne se tourne pas vers Dieu le Père, avec l'aide de l'Esprit Saint et le Christ comme modèle, eh bien, on continue à errer, en fait.
Alors juste, Étienne, si vous pouviez, oui, sans dévoiler tous les secrets de fabrication, quand même, à quoi ressemble une journée type? Qu'est-ce qu'on y fait? Racontez-nous un peu. On fait des descentes en rappel de 40 mètres, j'ai cru comprendre. C'est peut-être pas lever 5 heures, lever des couleurs, et puis on fait des pompes torse nues dans le jardin. Mais expliquez-nous un petit peu, quand même, à gros traits, ce qu'on y vit de manière un petit peu plus précise.
Oui, alors, à gros traits, donc, on commence la journée, effectivement, par un temps de prière. Donc fameux temps pour se reconnecter, comme je le disais juste avant. Ensuite, alors ça dépend évidemment, il n'y a pas de journée type en fait, hein, mais on va dire qu'il y a des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers. Un atelier, c'est un topo qui est assez bref sur un point précis qui vient vraiment du livre d'Eldredge. On s'appuie essentiellement sur le livre de John Eldredge. Il y a un petit topo, ensuite il y a un temps de réflexion. On médite sur pendant 10-15 minutes sur le topo à partir de questions qui nous sont posées et qui nous aident à intérioriser l'enseignement. Et puis, il y a un temps de partage. Un temps de partage où on est en petit groupe de 6 ou 7 et on échange entre nous sur ce que ça fait surgir de notre cœur. Ça, c'est pour l'aspect d'enseignement. Ensuite, il y a effectivement un aspect d'aventure, un aspect d'engagement physique. Et pour ça, on a des temps des activités physiques, sportives, qui varient d'un endroit à un autre, d'un moment à un autre. C'est pour dire que c'est pas forcément, là vous avez parlé de rappel, mais en fonction du lieu ou du moment, on peut choisir une autre activité. Le but, c'est quand même de faire quelque chose de fort, d'intense physiquement, et quelque chose dans lequel tout le monde va se dépasser. Les camps sont ouverts de 18 à 77 ans, et on met vraiment un point d'honneur à ce que tous les participants fassent toutes les activités. Par contre, évidemment, il faut qu'elles soient adaptées pour que celui qui est... on va dire ceinture noire, s'amuse et se dépasse, et que celui qui est ceinture blanche, il trouve aussi son compte et puisse participer à l'activité, si vous voyez l'image, quoi. Et donc, on fait des activités comme ça qui sont aussi des grands moments pour comprendre la dimension d'engagement qu'il y a au cœur de l'homme, en fait. C'est des activités dans lesquelles on s'engage.
Eh ben merci beaucoup Étienne Delagarde. On va faire une première pause. On trouve aussi cette phrase sur votre site. L'homme ne peut se réaliser pleinement que lorsqu'il met son bras au service de quelque chose qui le dépasse. Pour atteindre son idéal, il doit combattre, il doit affronter ses peurs et ses démons intérieurs pour habiter complètement sa masculinité. Pour ceux qui nous quitteraient maintenant, il y a encore 3 dates de camp. 26, 29 septembre, ça sera au Mont-Saint-Michel. Du 10 au 13 octobre à la Sainte-Baume, donc dans le diocèse de Fréjus-Toulon, et du 24 au 27 octobre prochain à la Sainte-Baume également, un site internet au-coeur-des-hommes, au-coeur-des-hommes.org. On fait une courte pause et on va retrouver Bertrand Chevalier avec nos autres invités qui va nous aider à plonger dans on va dire le parcours que vous proposez au cœur de ces camps.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Capella.
Zoom sur les sessions au cœur des hommes, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Que des hommes, pour une fois j'allais dire, non je plaisante, était avec nous Étienne Delagarde, l'un des cofondateurs de ces camps au cœur des hommes, nous a rejoint Bertrand Chevalier-Champy, vous êtes commercial dans l'informatique, père de 3 enfants et membre de l'équipe d'organisation des camps au cœur des hommes, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vincent Chef de Bien qui est toujours avec nous, ingénieur informaticien, père de 4 enfants, membre d'une fraternité au cœur des hommes, et avec nous à la fin de cette émission, Benoît Marc qui est lui-même membre d'une de ces fraternités. Alors avec Étienne, on a compris la genèse de cette aventure, déjà quelques bases ont été posées pour ceux qui sont loin, j'espère que ça a planté le décor avec cette belle confidence d'Étienne Delagarde qui nous racontait avant d'être marié cette expédition, on va dire au cœur du Moiré Poitevin pendant 3 jours, à se demander à se dire combien il était difficile d'être un garçon et se rendant compte que en utilisant lui-même le terme de garçon plutôt que d'homme, c'était révélateur de beaucoup de choses. Je voulais commencer Bertrand Chevalier-Champy, avant qu'on voit avec vous, on va dire, on survole le parcours intérieur que vous proposez à tous ces hommes dans ces camps. Il y a autre chose qu'on intuitionne ou qu'on lit sur votre, entre autres, votre site internet, c'est que la masculinité, en fait, ça se reçoit de d'autres hommes. Il y a une forme de validation par des pères, par des amis. Expliquez-nous ça.
Absolument. En fait, quand on naît, on est en fusion totale avec sa maman et donc on est complètement dans la sensibilité. Et l'homme a un chemin, un parcours à faire dans sa vie pour se recevoir comme un homme et s'éloigner progressivement de cette sensibilité pour acquérir une forme de maîtrise consciente. La maîtrise n'exclut pas la douceur et la tendresse, hein. Il y a une espèce de tension vers l'impossible, hein, dans l'homme réalisé, entre la force et la tendresse, hein. Et en fait, cette virilité, même au-delà de la masculinité, cette virilité, elle se reçoit par ses pairs, P-A-I-R-S, en particulier par le père, et s'il est plus ou moins défaillant, que nous sommes tous des pères, donc on sait qu'on n'est pas, on est jamais parfait, mais c'est vraiment par le père que se reçoit cette dimension masculine, et c'est le père qui va dire à son enfant tu es mon fils, tu es fort, tu es vaillant, tu es courageux, etc. Et d'ailleurs, dans toutes les sociétés, depuis des millénaires, il y a des rites de passage réservés aux garçons. Parce que toutes les sociétés du monde ont identifié ce besoin de faire grandir le garçon pour le faire passer à l'état d'homme masculin. Et ces rites, en fait, on les a oubliés. On les a perdus, on les a oubliés de manière consciente ou inconsciente.
Alors Vincent Chef de Bien, juste, est-ce que ça vous parle cette masculinité qui se reçoit, alors soit d'un père, et puis on imagine quand le père a été défaillant, eh ben on peut éventuellement aller chercher dans des figures tierces, ou parfois c'est ce qu'on cherche peut-être dans ces camps au cœur des hommes. Est-ce que ça vous parle?
Ah oui, alors ça me parlera vraiment beaucoup. Effectivement, le modèle paternel pour réussir à se recevoir en tant qu'homme, c'est vrai que ce moment où un homme dépasse son père, on a besoin, enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, on a besoin un moment de passer devant son père pour être un homme, et pour ça il faut effectivement le dépasser dans un domaine quel qu'il soit, et que lui le reconnaisse, dise ok c'est bon, maintenant tu es devant moi, et là ça devient, à ce moment là vraiment on se sent fort en fait, quelque part.
Et au cœur des fraternités, c'est un sujet qui revient souvent, on va dire, de cette relation au père et ce besoin de validation, comme on dit.
Mais on constate en tout cas, oui, au cœur des... Alors on appelle ça des cordées maintenant. au cœur des cordées...
Oui, pardon, je me suis trompé, oui.
Des cordées d'hommes, que le rôle du père est fondamental dans la définition de l'individu. Hein. Ça revient régulièrement, oui.
Bertrand Chevalier-Champy, vous avez parlé de maîtrise consciente et de tension vers l'impossible. J'aimerais que juste qu'on s'arrête là-dessus avant de parler de la suite. Ça veut dire quoi en fait? On a entendu d'autres expressions. L'homme est fait pour le combat, pour la conquête, pour l'aventure. Maîtrise consciente et tension vers l'impossible. Comment vous expliciteriez cela?
Et en fait, c'est cette définition de la virilité. Elle vient d'Emmanuel Mounier, qui est un philosophe personnaliste, qui définit la personne comme étant l'ultime objectif, enfin, le développement de la personne comme étant l'ultime objectif de l'humanité. Et il explique aussi qu'il y a besoin d'hommes et il y a besoin de femmes. Et si les hommes ne sont pas virils, on ne va pas y arriver. Donc cette maîtrise consciente, en fait, ça prend sa source dans un certain ajustement à soi-même. Savoir qui je suis, ça me rend stable. Hein. C'est une vue intérieure et libre sur moi-même. Et en fait, dans les camps, on va aller chercher. On va aller chercher ça. Et en fait, l'ajustement à soi-même, il commence par la pulsion du désir de vie. Et quasiment quelque chose qui est animal, en fait. Hein. On a tous en nous une pulsion de vie et qu'il faut ensuite qu'on oriente, mais qui provoque des désirs, qui fait jaillir la vie de nous. Et ça, c'est vraiment par là qu'on prend le bout de la lorgnette, puisqu'il ne s'agit pas d'être un homme et de s'emmerder dans la vie. On est un homme pour vivre à fond ses désirs, et c'est comme ça qu'on va apporter du beau, qu'on va créer, qu'on va rendre le monde meilleur.
Alors justement, venons-y au désir. Quand on vous lit, c'est vrai qu'il y a une chose qui est frappante. Vous dites qu'il faut rejeter violemment la moraline. Vous allez expliquer ce que c'est que cette moraline et peut-être une habitude de vie chrétienne qui a tendance à étouffer justement ce désir où on entend derrière un peu ce cri primal de l'homme. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire.
Oui, en fait, Le désir fait un petit peu peur parce que c'est quelque chose qui est un petit peu comme l'Esprit Saint, qui est imprévisible, qu'on contrôle pas, qu'on maîtrise pas, qui fait pas les choses comme on l'imaginait, pas comme le plan. Et donc, il y a eu beaucoup de peur face à ça. Et en fait, la moralisation au sein de l'Église en particulier a tué tout ça. Ça et l'enfouissement du désir de vie, hein, c'est in fine, c'est la mort spirituelle, c'est la mort cérébrale, parce qu'en fait on va arriver à une démission parce que les hommes ont besoin de cette vie palpitante, et si ça sort pas par la mort cérébrale ou spirituelle, ça va sortir en violence, en désordre, ou en voire en perversion, puisque à la fin, il faut quand même toujours réussir à avoir cette forme de conquête et de vie de désir.
Donc violence, vous dites que ça peut se transformer en violence physique, verbale, comportementale, perversion, c'est y compris les perversions sexuelles ou addictions, c'est ça ?
Absolument, absolument, absolument. Et d'ailleurs, avant d'être un père, avant d'être un prêtre, avant d'être un mari, je dois d'abord être un homme. Et le socle de ma virilité, de ma masculinité, et le socle qui va permettre de bâtir un père ajusté, un mari ajusté et un prêtre ajusté, c'est bien ma virilité. Si là, mon socle, il n'est pas bien ficelé, eh ben, ça va donner tout genre de difficultés, de déviations.
Voilà, parlez bien devant le combiné. Hein. Si on revient sur le livre de John Eldredge, donc Indomptable, on l'a dit dans cette première partie, dans la première partie de l'émission, donc qui est un peu le best-seller qui a inspiré beaucoup de ses camps pour hommes et entre autres Au cœur des hommes, il y a un triptyque et j'aimerais que vous arrêtiez. Pour vous, il est certainement devenu familier, mais pour d'autres, pour certains auditeurs, ça sera peut-être une grande découverte. Le triptyque est le suivant. Chaque homme a une aventure à vivre, un combat à mener et une belle à conquérir et à sauver. Expliquez-nous ce triptyque.
Absolument. Donc c'est effectivement un triptyque qu'on développe dans les camps, et c'est un lieu, ce sont trois lieux où on a tous, quelque part, de manière différente et orientée, des désirs profonds. D'abord, on a le désir de combattre. Quand vous regardez les petits garçons, ils trouvent un bâton, ils se tapent dessus, ils font la guerre, etc. C'est normal. Eh ben, notre tentation face à ça aujourd'hui, et la moraline nous invite à ça, c'est de pas combattre, il faut être gentil, voilà, faut pas taper, faut être gentil, etc. Mais bon, s'il n'y avait pas eu de combattants dans le monde serait quand même très différent et beaucoup plus instable finalement. Notre tentation face à ça, c'est la fuite. Le premier combat qu'on a à livrer, c'est contre soi-même, qui est le combat de ne pas fuir notre propre force. Elle fait partie de notre vocation d'homme viril, et là, on peut pas fuir. Le deuxième combat, c'est naturellement le combat contre le monde. Hein. Eldredge dit, un mot très juste, le monde est un carnaval de contrefaçons. Et on le voit dans le capitalisme outrancier dont on parlait déjà dans la première partie de l'émission, que ce monde, il y a encore du boulot. Et si on n'y va pas, si on ne monte pas au combat, il ne va pas se changer tout seul. Et le troisième combat, et puis le qui est un combat spirituel, qui est un combat contre Satan qu'on va retrouver dans toutes les dimensions des autres formes de combat, c'est le combat spirituel de vraiment engager un combat spirituel dans sa relation personnelle à Dieu, au monde autour de nous, à lutter contre tout ce qui nous fait peur, tout ce qui nous dit surtout ne te lève pas, reste assis, reste dans ton coin, t'es pas légitime, t'es un imposteur, blablabla, tout ce qui nous fait dire ne bouge pas.
Voilà, donc combat contre soi-même, combat contre le monde, combat contre Satan. Vous dites, si on parle de la conquête de la belle, conquérir une belle et sauver même une belle, qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais, alors c'est au début, moi, conquérir la belle, je comprenais, c'était beau, c'était super, la conquête, moi, voilà. Sauver sa belle, je trouvais ça vraiment un peu perché, quoi. Qui suis-je pour sauver ma belle? Et en fait, je l'ai expérimenté dans ma vie, et effectivement, il y a cette dimension-là. La belle, en fait, elle est naturellement dans sa tour, elle attend un chevalier vaillant qui va la sortir de sa tour, si je prends un résumé au sein des contes. Et en fait, elle attend qu'on se lève pour la conquérir, parce que sa peur à elle, c'est est-ce que je suis belle, est-ce que je vaux le coup, est-ce que ma beauté vaut le coup, physique et spirituelle, et voilà. Et donc elle a cette crainte, elle a été déçue dans sa vie, en particulier par son père qui n'a pas été, qui n'a pas eu sur elle un regard d'amour inconditionnel, de tendresse, qui lui a pas suffisamment dit qu'elle était belle, qu'elle était ravissante. Quand la petite fille, elle tourne devant son papa, je sais pas si vous avez des filles, mais c'est tellement mignon, voilà. Et en fait, elle est déçue, du coup, elle veut garder le contrôle, et pour se protéger, finalement. Et donc, elle se met dans sa tour. Sa tour, c'est la tour de contrôle.
Alors, la conquérir, on comprend, mais la sauver, ça veut dire quoi, dans ces cas-là?
La sauver, c'est la sortir de cette tour. C'est aller la chercher, se battre pour la sortir de cette tour, et sans la forcer, mais l'accompagner sur un chemin d'accueil qui n'est pas si naturel que ça, puisque c'est sa protection, justement, de se mettre dans sa tour, mais c'est une fausse protection. Voilà. Nous, notre lâcheté, à nous les hommes, c'est de pas aller la chercher, c'est de la laisser là-dedans, et puis de mettre une tente au pied de la tour, et puis de vivre une espèce de trêve doucereuse, où apparemment ça a l'air super, personne se marche sur les pieds, tout va bien, c'est bien rangé. Mais la vie du couple, c'est vraiment c'est une quête de l'impossible, d'une relation entre un homme et une femme qui sont très différents, mais qui se reçoivent l'un à l'autre. Et l'homme, dans Saint Paul, est appelé à donner sa vie, comme le Christ pour l'Église. Donc ça, c'est un engagement qui est hyper profond, qui va vraiment très loin. Et c'est à ça qu'on
voilà, donc
c'est un sujet qu'on développe dans nos camps, puisque le couple, c'est un sujet difficile.
Bertrand Chevalier-Champy, je vois le temps qui passe, il nous reste 2 minutes avant de vous quitter. Dernier point, donc, c'est vivre une aventure. Je rappelle donc, mener un combat, conquérir une belle et la sauver, et vivre une aventure. Que faut-il entendre derrière cette aventure, dans laquelle il faut, semble-t-il, entraîner aussi donc sa femme et ses enfants, à vous entendre?
Dans la Genèse, il nous donne cette mission d'explorer, construire, conquérir et gérer le monde. Première vue, ça a l'air d'être tout fait, mais je sais pas, si on regarde le monde, est-ce qu'on pense que tout va bien dans le monde? Je ne crois pas. Donc le monde, il va mal et il faut le reconquérir. Et Dieu, il a jamais annulé ce contrat. Hein, donc il nous appelle à vivre des aventures, à sortir de notre canapé, à sortir de notre appartement pour nous engager, et c'est là la conclusion des camps, nous engager, quelle que soit la forme d'engagement, hein, puisqu'il n'y a pas de cause parfaite. Par contre, il y a tellement de sujets où nous, chrétiens, on a une mission d'humanisation qui est où on ne peut pas attendre. Hein. Si on attend, on arrête de se plaindre. Si on est la vache qui regarde le train passer, il faut aussi qu'on arrête de se plaindre. Et que, voilà. Non, nous, chrétiens, on est appelés à nous lever, à prendre nos responsabilités, notre bâton de pèlerin, et à y aller.
Eh ben merci beaucoup Bertrand Chevalier-Champy. On trouve aussi dans un article de Famille Chrétienne publié en 2019, c'était en mars dernier, référence à un autre ouvrage que John Eldredge indomptable, Laurent Perru, Masculin en crise, devenir un homme selon le cœur de Dieu, où il dit la chose suivante, l'homme est appelé à quitter sa mère pour son épouse, quitter l'imaginaire pour le réel, quitter le macho pour devenir père. Bref, toute une aventure et tout un programme. Avant de se quitter pour cette deuxième pause musicale, pour ceux qui devraient donc arrêter de nous écouter maintenant, je rappelle un site internet au-coeur-des-hommes.org, au cœur des hommes avec des tirets, et trois camps restent à venir pour la fin de l'année 2019. On fait une pause musicale et puis on retrouve deux de nos invités qui vont nous raconter à la première personne du singulier ce qu'ils ont vécu dans ces camps.
À Figeac 97.7.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Zoom sur les sessions au cœur des hommes, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau est avec nous donc Étienne Delagarde, cofondateur de ces camps, Bertrand Chevalier-Champy, membre de l'équipe d'organisation, et avec nous en cette fin d'émission donc Vincent Chef-de-Bien, ingénieur informaticien, père de 4 enfants, membre donc d'une cordée, et Benoît Marc nous a rejoint, il est maçon de pierre à l'ancienne et père d'un enfant, membre aussi d'une de ces cordées. Bonjour Benoît.
Bonjour Benoît, bonjour à tous, bonjour Vincent.
Voilà, parlez bien près du micro, hein. En tout cas, on va faire en sorte que on vous entende bien. On va commencer avec Vincent, chef de bien, et puis après, on prendra le temps avec vous, Benoît Marc. Comme souvent dans ces émissions, c'est bien d'essayer de voir ce qui a pu se produire pour l'un ou l'autre lors de cette aventure. Ma première question, ça serait comment vous en avez entendu parler de ces camps, et puis est-ce que vous aviez une attente particulière, Vincent, avant de vous lancer dans cette aventure?
Alors moi j'en ai entendu parler par un des fondateurs, Étienne Delagarde en l'occurrence, que je connaissais avant et qui m'a proposé, qui m'a dit voilà, ce camp se monte. Et c'est vrai que j'y suis allé parce qu'il m'avait proposé sans trop d'attente, sans...
Vous disiez que vous étiez un homme lambda, c'est ça?
Oui, c'est
plutôt
ça.
Bien j'étais... dans ses grolles et pas avec d'attente particulière.
Voilà, c'est ça. J'avais pas de sensation de manque, j'avais pas l'impression d'aller mal, j'avais l'impression d'aller plutôt bien. Moi, j'avais une vie stable, j'étais marié, j'avais 3 enfants, un travail. Je me sentais à l'aise avec le thème de la masculinité, oui.
Alors, vous êtes lancé dans cette aventure. Vous avez été marqué, donc, vous me disiez, par la fraternité, la bienveillance. Déjà, j'aimerais que vous reveniez là-dessus. C'est-à-dire une relation entre hommes dans ces camps qui est très singulière.
Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment marquant, c'est la façon dont les défenses tombent au cours de ce camp. Vous savez comment c'est souvent quand on est entre hommes, il y a un peu de challenge, on se cherche un peu, on se regarde, on se compare, même si on s'aime bien, mais il y a toujours ce petit côté défi. Et là, en fait, au sein de ce camp, on est tous là entre pauvres, j'allais dire, avec des hommes, on est tous là avec nos défauts, on n'est pas là pour se montrer, on est là pour réfléchir à ce qu'on est, pourquoi on l'est, qu'est-ce qu'on veut devenir. Et donc, il y a une vraie bienveillance, une fraternité qui s'installe, qui permet des échanges en vérité. Et c'est assez rare, en fait, entre hommes, d'être dans des échanges profonds et en vérité, vraiment, on va chercher ce qu'on est au fond et on va réussir à l'exprimer. Et pour des hommes, c'est pas évident.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces camps? Vous me disiez que vous aviez retenu 3 moments particulièrement frappants.
Oui, en fait marquant, pour moi, il y a un moment, c'était un topo, donc le tout premier topo sur lequel on est tombé, qui était un topo sur la figure masculine du Christ. En fait, moi, ça m'a marqué parce que la foi aujourd'hui est quand même globalement transmise par les femmes, bien souvent, en tout cas, et donc... On a une image du Christ qui est une image un peu féminisée, finalement. C'est normal, on en voit ce qu'on nous en transmet. Et donc voilà, j'avais une image pas très virile de Jésus, pour tout dire. Et pour le coup, c'est difficile d'accrocher. On se dit, mais en quoi est-ce que c'est un modèle? Et on a eu ce topo où le gars qui nous faisait le topo, c'était Étienne d'ailleurs, je crois. Et il s'est attaché à nous montrer à quel point, en fait, le Christ était un homme viril, fort, courageux et qui s'imposait quand il le fallait, voire physiquement même.
On pense au marchand du temple,
entre autres. On pense au marchand du temple, on pense au passage à Nazareth, là où des gens veulent le précipiter du haut de la falaise et où lui s'échappe. Bon, quand il y a une foule qui essaie de vous saisir et que vous passez au travers, faut maîtriser son corps, quoi. Et puis même dans ses paroles, quand il traite les pharisiens de sépulcre blanchi, en face d'une foule, il tient sa position et il n'hésite pas à dire ce qu'il pense et ce qu'il croit. Il fait pas profil bas. Et ça, c'est vrai que pendant une heure, il s'est attaché à nous montrer tout un tas d'exemples sur lesquels j'étais passé complètement.
Alors, vous m'avez parlé aussi d'un témoignage, comme je vois le temps qui passe, peut-être que celui-là on va le sauter, d'un témoignage donc d'un converti aussi qui vous avait beaucoup frappé. J'aimerais que vous reveniez sur un temps de partage fort, et ça me permettra aussi de glisser ma dernière question, c'est quel fruit en fait ça a apporté pour vous ces camps?
Alors il y a eu un passage assez fort où au cours d'un partage avec d'autres hommes, je racontais quelque chose de complètement anodin sur ma vie de famille quand j'étais petit, et tout à coup, sans raison, je me suis mis à pleurer nerveusement, je me suis effondré. Je n'ai pas compris pourquoi sur le moment. Je leur ai dit, je sais pas ce qui m'arrive, mais bon. Donc ça m'a posé question, et en fait, ce moment a apporté des fruits plus tard. Et c'est vrai que les fruits qu'ont porté ce camp, c'est pas sur l'instant. Si vous voulez, sur l'instant, il s'est passé pas mal de choses, mais ça restait assez léger comme impact, quoi. Et en fait, ce camp m'a donné les bases pour, au cours des années suivantes, progresser, comprendre des choses. Et donc cette expérience personnelle, là, au cours d'un partage, quelque chose s'est révélé de l'inconscient, ça m'a permis, 2-3 ans après peut-être, de comprendre ce qui s'était passé. Il y avait eu un manque de la part de mon père. Rien de grave, mais voilà, ça avait conditionné ce que j'étais devenu depuis mes 8 ans jusqu'à mes, je sais plus, j'avais 30 ans quand j'ai fait ce camp. Et donc, ce camp m'a vraiment permis de progresser dans les années suivantes et de résoudre des choses qui traînaient depuis l'enfance, quoi. Donc, c'était fort.
Une étape fondatrice, vous me disiez aussi donc que ça vous avait fait progresser aussi dans la gestion des conflits. Vous étiez quelqu'un qui avait, on va dire, qui aimait pas trop les conflits et qui, quand vous faisiez de la boxe, osait pas forcément cogner, que ça vous avait appris à vous positionner avec justice, bienveillance et courage. Benoît Marc, même question, même, on va dire, même frise pour cette expérience des camps, entre le Benoît Marc d'avant et d'après. Comment vous commenceriez peut-être par poser le décor? Comment vous avez entendu parler de ces camps et qu'est-ce qui vous a motivé?
Alors, le décor est vite planté. J'ai rencontré Étienne sur le Var, puisque j'habite à Saint-Maximin, à la Sainte-Baume, et on était à Cotignac avec Monseigneur, avec les séminaristes.
Donc Monseigneur Ray, en l'occurrence.
Ouais, voilà, Monseigneur Ray. On discutait, on échangeait, puis Monseigneur vient, il me tape sur l'épaule, et puis il tape sur l'épaule à Étienne et dit « Un candidat pour le mois d'octobre ». Alors, Étienne, effectivement, puis il s'en va, puis Étienne m'explique ce qu'est lundi du mois d'octobre. Alors, j'ai dit, pas de problème, ok, ça roule. Très content, sans attente spéciale sur la masculinité, parce que, voilà, je pense que j'avais pas, comme disait Vincent tout à l'heure...
Pas de soucis.
J'avais pas de soucis majeurs, voilà. Par contre, j'ai découvert, et ça m'a permis de bien... enraciner ce que je pense profondément dans mon cœur en tant qu'homme, en tant qu'époux, de pouvoir se dire bah, je ne suis pas un dinosaure, je travaille peut-être la pierre, mais ma manière de penser, je ne suis pas seul à réfléchir pareillement, parce que les hommes aujourd'hui chrétiens sont bien souvent esselés, et on se retrouve dans des confrontations contextuelles où bah, on est amené à livrer on peut dire des combats d'idées ou de pensées, mais de pouvoir se positionner même dans nos familles pour dire ça, il y a des choses où il faut être ajusté et où on doit tenir le cap pour justement transmettre cette dimension de l'homme et de la force mise au service de l'amour.
Alors, Benoît Marc, qu'est-ce qui vous a marqué dans ces camps? Même chose qu'à Vincent Chefdebien. Quand vous regardez dans le rétroviseur, voilà, qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Et si vous aviez un ou deux moments à garder, quels sont-ils?
Ce qui m'a le plus frappé, c'est cette profondeur entre tous les hommes qui font ces camps, où ils se lâchent, où ils se livrent, voilà, qui se donne dans cette profondeur, en laissant tomber les barrières de la mondanité. Voilà, il y a une descente fulgurante, et ce dès le premier soir de présentation. Et là, il y a des choses, alors il y a plus ou moins, des personnes qui lâchent tout de suite les gros paquets, et d'autres qui les lâchent un petit peu plus tard. Et ça, c'est vraiment une belle aventure intérieure, et où on est avec cette fraternité d'hommes. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, à travers l'accordé de Saint-Maximin, me permet aussi de pouvoir continuer d'avancer dans ce chemin de sanctification à la suite du Christ avec mes frères, parce qu'on n'est pas tout seul, hein. C'est pas simplement que vertical, hein. Elle est aussi horizontale, la croix, hein. Et ça, c'est quelque chose qui, avec le cœur des hommes, il y a cette inspiration profonde à nous entraider, à nous sanctifier.
Voilà, donc ça
et
c'est
pour moi ce que je retire, c'est de ne plus reculer face à une difficulté ou un combat, c'est aller en face. Et ben il y a un problème, et ben on y va, on regarde, on assume et on trouve des solutions s'il y a des solutions à avoir. Et puis ben il y a surtout la prière de mes frères qui peuvent et qui m'aident dans ces difficultés au quotidien.
Benoît Marc, sans être trop indiscret, est-ce que vous auriez une illustration d'un fruit que ça a apporté dans votre vie? On entend ce que vous dites, mais dans votre histoire personnelle ou familiale, justement, ou professionnelle, un moment où vous auriez dû vous positionner et où voilà, c'est quand au cœur des hommes et cette cordée vous a aidé à vous sentir légitime pour le faire?
C'est essentiellement le fait de pouvoir reconnaître mon erreur de discernement et d'égarement dans un choix personnel qui m'a valu 14 ans de vie avec quelqu'un qui n'était pas ajusté avec la possibilité d'être épouse. Donc c'est un vrai combat de rentrer dans la vérité pour être la vérité rend libre, être libre de pouvoir être témoin de l'amour de Dieu. Et ben, ça nécessite beaucoup de difficultés, d'efforts et d'humilité avec soi-même, parce qu'il faut accueillir ce manque de discernement que je n'ai pas eu à ce moment-là. Ces reculades que j'ai faites à plusieurs fois, parce que j'avais déjà ma petite voix qui me disait depuis le début, bip. Mais voilà, quand on met les choses pas dans l'ordre juste, eh bien, à travers les différents topos, les différents partages, ben ça donne ça permet d'avancer. Moi, ça m'a permis d'avancer et puis de pouvoir aussi m'émerveiller de ce qui a été donné à tant de frères qui ont fait les camps. Puisque ça m'a été donné de pouvoir participer à tous les camps de la Sainte-Baume pour aider, pour appuyer l'association au cœur des hommes. Et ça, c'est vraiment une grâce de pouvoir voir que tout homme, nos frères prêtres aussi, ils ont à avoir des lieux où ils puissent avoir un lieu de bien, vraiment d'écoute, d'accueil et sans jugement de pouvoir entre hommes, quoi. Voilà, parce que
eh ben merci. Merci beaucoup Benoît Marc, merci Vincent Chef de Bien, merci à Bertrand Chevalier-Champy et Étienne Delagarde pour ce coup de zoom donc sur ces sessions au cœur des hommes. Pour finir cette émission, donc je rappelle le titre de l'ouvrage de John Eldredge, Indomptable, ou Le secret de l'âme masculine, Indomptable ou Le secret de l'âme masculine, John Eldredge, et Masculin en crise, devenir un homme selon le cœur de Dieu, de Laurent Perru. Les prochaines dates des camps au cœur des hommes, il y a donc trois dates à venir, 26-29 septembre au Mont-Saint-Michel, 10-13 octobre à la Sainte-Baume et 24-27 octobre à la Sainte-Baume également. Un seul site internet au-coeur-des-hommes au cœur des hommes avec un -.org. Un grand merci messieurs à vous. Cette émission a été réalisée par Océane Soulier. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.